Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition en partenariat avec la revue Questions internationales et son numéro intitulé « Fracturation, 20 ans de relations internationales, regard sur l'évolution qu'a connue la société internationale depuis la fin des espoirs nés de la chute du mur de Berlin et de la mondialisation qui a dominé la fin du XXe siècle. Crise sécuritaire, crise économique et financière de 2008, sanitaire avec la pandémie de Covid, le retour de la guerre sur le continent européen avec le conflit russo-ukrainien et au Proche-Orient avec la guerre à Gaza, les insécurités qui ponctuellement surgissent ou ressurgissent. Haïti connaît une situation des plus chaotiques. La forte régression du multilatéralisme et la mise hors jeu des institutions universelles comme les Nations Unies. Les rivalités multiples de puissances réapparaissent et les défis se multiplient. Inégalités sociales, migration internationale, dérèglement climatique. Ordre mondial en mutation, accélération de l'histoire, redistribution des puissances, redéfinition des relations internationales, le monde à l'ère post-occidentale. Nos invités, Sonia Le Gourielec, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de Lille. Bonjour.
Bonjour.
Gilles Andréani, professeur affilié à Sciences Po, ancien directeur du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Vincent Olindre, professeur de sciences politiques à l'Université Paris-Panthéon-Assas, directeur du Centre Thucydide. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'a changé l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, l'attaque du Hamas en octobre dernier et la riposte sans fin d'Israël? De quelle manière ces deux conflits caractérisent selon vous le monde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'a changé l'invasion de l'Ukraine par la Russie? Alors d'aucuns évoquent, notamment Emmanuel Todd, les symptômes suicidaires de ces deux conflits. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous partagez? Qui souhaite commencer? Gilles Andréani.
Je crois qu'ils ne sont pas du tout du même ordre, si je peux commencer comme ça. Il me semble que la guerre en Ukraine est d'une importance stratégique inédite pour toutes sortes de raisons. C'est la première guerre ouverte entre puissances développées, majeures, sur le continent européen depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le signe d'une volonté de résurgence impériale de la Russie et... autour de la guerre d'Ukraine se produit un nouvel alignement de puissance tout à fait structurant, en gros, entre l'Occident et la Russie, avec des affinités chinoises, enfin, certains degrés de soutien de la Chine. Bon, le Hamas, c'est une autre affaire. C'est beaucoup plus violent et beaucoup plus considérable que les précédents épisodes du même type. Mais enfin, après tout, on a eu la deuxième intifada, la première invasion de Gaza en 2014. Ce n'est pas aussi déterminant. À mon avis, c'est tout à fait évident. Alors, si on veut chercher un point commun entre les deux, c'est deux choses. La première, c'est que c'est le reflet d'un certain durcissement des relations internationales. C'est-à-dire que l'absence de retenue totale de la réplique israélienne, le côté, je dirais, nu et désinhibé de l'emploi de la force par la Russie signale... Oui, un durcissement des esprits, ça c'est tout à fait clair. Le deuxième, c'est, dans le cas de la guerre de Gaza, en tout cas, les mécanismes de modération extérieure ne jouent quasiment aucun rôle. Autrement dit, les États-Unis ne parviennent pas à modérer Israël. Par conséquent, c'est aussi le cas de l'Ukraine. L'Ukraine et la Russie, les intervenants extérieurs, désintéressés ou non, ne parviennent pas à modérer le comportement de la Russie.
L'impuissance de la puissance américaine. Jean-Vincent Olindre.
On parle d'un retour de la guerre. C'est vrai au sens, en effet, l'attaque russe en Ukraine du 24 février 2022 ou les attaques très impressionnantes et épouvantables du 7 octobre signalent ce retour. Mais en même temps, on parle de deux conflits qui durent depuis très longtemps. Les Ukrainiens et peut-être les Russes se considèrent comme étant en guerre au moins depuis 2014. Quant au conflit israélo-palestinien, il a été la base continue des relations internationales depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc le fait d'employer cette expression « retour de la guerre » doit être interrogé. Et la surprise qui a été la nôtre également. Surprise, il y a dans l'ampleur des moyens employés et dans le durcissement évoqué par Gilles Andréani. Mais c'est aussi, j'emploie peut-être un mot trop fort, mais une forme d'aveuglement quant à des évolutions du monde qui étaient peut-être observables depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, et que les Occidentaux n'ont peut-être pas voulu voir de façon plus réaliste, en quelque sorte. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui s'opèrent des basculements très rapides qui ne sont pas forcément à mettre au crédit des puissances occidentales. Donc il y a à la fois la dégradation de la situation évoquée par Gilles Andréani, et effectivement un conflit d'ampleur en Ukraine qui interroge, mais aussi la difficulté pour les puissances occidentales à la fois de faire le bon diagnostic et d'être en quelque sorte en phase avec ce nouveau récit du monde dont il apparaît que les Occidentaux ne sont pas les principaux auteurs. Et donc dans ces conditions, la question qui se pose, c'est comment les puissances occidentales, si tant est qu'on puisse parler d'ailleurs de puissances occidentales, compte tenu de la divergence des continents entre le continent nord-américain et l'Europe d'autre part, est-ce que ça continuera à faire sens de parler de puissances occidentales? C'est une première question. Et la deuxième question, c'est comment composer avec cet ordre international où, d'une certaine façon, les puissances occidentales ne sont plus au centre du jeu. Ça ne veut pas dire qu'elles sont démunies, ça ne veut pas dire que les démocraties doivent baisser les bras, bien au contraire, mais ça veut dire qu'il faut à un moment donné être en situation de comprendre pourquoi ce qui est apparu depuis deux ans avec l'Ukraine et depuis un an, enfin quelques mois avec la guerre entre Hamas et Israël, n'a pas été finalement pris au sérieux avant. Parce que cette dégradation des passions tristes dont parlait Pierre Hassner, elle est visible déjà depuis au moins une vingtaine d'années.
Sonia Le Gourielec.
Oui, alors je partage ce que viennent de dire mes collègues. Effectivement, on a un conflit important car qui implique des puissances globales. Je pense que ce conflit marque surtout une fracturation encore plus forte, pour reprendre le titre du question internationale, du système international. On le voit depuis quelques années, effectivement, qu'on va vers une bipolarisation avec la Chine, les États-Unis. Mais ce que nous dit ce conflit ou ces conflits, que ce soit en Ukraine ou à Gaza, c'est aussi qu'il faut entendre ce que nous disent les pays du Sud. Et on y reviendra sûrement tout à l'heure. Je ne veux pas employer ce terme. Il faudra faire attention à comment on l'emploie. Mais de rappeler que ces deux conflits, on nous a dit, clairement dit, c'est votre conflit, c'est vos problèmes. Le ministre des Affaires étrangères indien nous a dit « L'Europe doit sortir de son esprit que les problèmes de l'Europe sont les problèmes du monde ». Et effectivement, ça implique des puissances globales. On a vu que le conflit en Ukraine a eu des répercussions économiques, etc., sur le continent africain. On a été surpris en Europe des réactions à l'Assemblée générale de l'ONU des pays des Sud, d'Afrique, etc. Mais il faut entendre et essayer de comprendre justement pourquoi ils nous disent cela, qu'est-ce que ça veut dire de notre système international et comment on doit se positionner et comment on doit y répondre. Je pense que c'est vraiment, ça met en évidence des fractures qui existent depuis un moment, mais qu'on doit effectivement entendre.
Alors, ce sera effectivement tout à fait intéressant d'approfondir. J'ai, pour rester la guerre d'Ukraine et la guerre à Gaza, d'autres questions à vous poser aux uns et aux autres. Est-ce qu'on peut dire d'abord que la guerre d'Ukraine, finalement, a aujourd'hui, Gilles Andréani, une dimension globale? Et Jean-Vincent Lindre évoquait l'aveuglement des puissances occidentales. Moi, je me pose la question de savoir aujourd'hui si ça n'est pas plutôt un manque d'engagement. C'est-à-dire qu'on regarde les choses passer, de même que, d'une certaine manière, on regarde aussi, enfin, on a le spectacle de la guerre en Europe, à Gaza, mais non tout à fait la guerre elle-même. Est-ce que vous avez le sentiment que nous menons finalement un combat à distance, sans croire vraiment à la guerre? Et est-ce qu'on n'a pas tort de nous en considérer à l'écart?
Oui, je pense que la guerre d'Ukraine a des résonances. Des résonances globales, elle est importante, pas tellement par les alignements qu'elle suscite, parce que je pense que le soutien chinois à la Russie en particulier est jusqu'à présent, modéré. Mais je pense qu'elle a des répercussions globales par le fait qu'elle est appelée à durer, en tout cas c'est mon estimation, et du coup elle peut devenir une sorte de source de malfaisance, de cancer qui risque de s'installer durablement au cœur de l'Europe. Et d'avoir une puissance russe qui, avec toutes ses limites, devient une sorte d'état voyou, de rogue state, de puissance acculée, en fait, c'est quand même très dangereux pour l'avenir des relations internationales. Alors, je dirais juste un mot sur l'attitude, pour compléter, sur l'attitude des pays du Sud, ou du Sud global, comme on l'appelle, vis-à-vis de ce conflit. Pour moi, ce n'est pas du tout nouveau. C'est-à-dire qu'il y a eu, pendant toute la guerre froide, des gens qui se définissaient précisément, c'était le mouvement des neutres et non-alignés, en disant « ce n'est pas notre affaire ». Bon, Et ce n'est pas notre affaire, c'était une volonté de se tenir à l'écart du conflit Est-Ouest. Parce que si on fait encore un tout petit peu plus d'histoire, il faut se souvenir que, en fait, le mouvement des neutres et non-alignés, par cohérence anticolonialiste, étaient des compagnons de route de l'Union soviétique, qui se présentaient comme le défenseur des peuples opprimés et le soutien des mouvements de libération. Quelque chose de ce type se passe et revient, mais ce n'est pas très nouveau. Et moi, ce qui me frappe, c'est que cette faille qu'on met toujours en avant n'est pas si importante, en fait. 30 abstentions dans les deux votes aux Nations Unies, et des gens qui, même proches idéologiquement de, ou historiquement de la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, pour des raisons évidentes, apporte un soutien très médiocre à la Russie, en fait, et garde leur distance. Donc, je ne crois pas... Il y a un retentissement émotionnel, il y a une source de dérèglement durable en Europe. Je pense que c'est plutôt un conflit du passé, d'une certaine façon.
Sonia Lagouriellec.
Je suis tout à fait d'accord qu'on voit revenir des lignes qui ont pu exister pendant la guerre froide, une forme de clientélisme aussi, pour attirer des subsides des différents camps, que ce soit la Chine, la Russie, les Occidentaux, etc. Néanmoins, je pense qu'on doit aussi prendre en compte une des différences qui est importante aussi par rapport à la guerre froide. Peut-être qu'il faut plus prendre en compte les opinions publiques, au sens que peut-être beaucoup d'élites africaines, notamment, ou des pays des Sud, ont été prudentes dans leur vote et dans leur positionnement à l'égard des différentes puissances globales avec la guerre en Ukraine. Mais quand on regarde les opinions publiques de nombreux de ces pays, on a quand même des discours qui ne sont pas nécessairement justifiés et véridiques, mais qu'il faut entendre de rejet, de recherche d'une alternative, de rejet justement d'un ordre global qui serait dicté par les Occidentaux, etc. Et une demande de justice et de plus d'égalité au sein des institutions internationales et du système international. Et je vous suis sur les élites pour le coup, mais je regarde un œil plus inquiet des opinions publiques et je trouve que les différents coups d'État, le recul de la démocratie sur lequel on va revenir tout à l'heure certainement. C'est aussi une marque de frustration d'une certaine jeunesse dans les Suds qu'il faut garder en tête.
Alors, je ne sais pas si Jean-Vincent Lindre, vous souhaitez profiter de cette introduction faite, ou passage de témoin sur la question de la démocratie. C'est vrai que dans votre numéro de questions internationales sur les fracturations, tout un chapitre dédié à la démocratie. Avec cette interrogation, est-ce que le temps de la démocratie libérale est passé, Jean-Vincent Lindre ?
En tout cas, il y a une remise en cause, au premier chef, au sein des démocraties occidentales, du modèle de la démocratie libérale. C'est-à-dire que là, on discute des différentes fracturations du monde, en évoquant notamment la montée en puissance des opinions publiques internationales, en quelque sorte. Il faut être très attentif au fait que, pour donner un exemple très concret, si en France, en 2027, le Rassemblement national devait remporter les élections, ça aura un effet très direct sur notre positionnement et sur un certain nombre de considérations internationales, de la même façon que si Donald Trump devait retrouver la présidence des États-Unis en fin d'année, enfin début d'année prochaine pour l'investiture, eh bien ça aurait des conséquences globales sur le monde, mais ça signale aussi une perte de confiance dans cet héritage de la démocratie libérale. Perte de confiance, disons, du point de vue des gouvernements qui sont appelés à peut-être à changer, mais aussi perte de confiance surtout au sein des opinions publiques et surtout au cœur des puissances occidentales. Et c'est ça qu'il faut interroger. Et c'est peut-être aussi ça qui crée en quelque sorte les réactions des différents pays des Suds par rapport à nos populations françaises, européennes, américaines, où cette demande autoritaire est extrêmement forte. Donc il y a aussi la nécessité d'une réflexion sur ce basculement au fond très rapide qu'expriment notamment les différentes enquêtes citées dans l'article sur le fait qu'aujourd'hui il y a une majorité du point de vue des indicateurs, une majorité de régimes autoritaires par rapport au régime démocratique. Il y a eu un basculement qui s'est opéré depuis une quinzaine d'années. Lorsqu'on fait des enquêtes d'opinion dans la plupart des pays européens, à commencer par la France, sur est-ce que vous envisagez un autre régime que la démocratie, aujourd'hui vous avez un tiers de la population qui dit oui, alors que c'était très très peu il y a encore 15 ou 20 ans. Donc il y a aussi cette réflexion à avoir sur cette cette demande autoritaire qui se substitue à un modèle occidental et libéral qui est par ailleurs extrêmement contesté par rapport aux fausses promesses qu'il a pu charrier, dans la période, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et effectivement, cette crise de confiance démocratique doit être mise en perspective au regard de ce que vous avez appelé tout à l'heure le manque d'engagement. C'est-à-dire que si il y a la conjugaison à la fois d'une perte de confiance intérieure et d'un affaiblissement économique, parce que les effets globaux de la guerre en Ukraine, ils sont sans doute d'abord et avant tout économiques. On voit bien que la guerre en Ukraine, pour le moins, n'a pas renforcé économiquement les pays européens du point de vue du prix des matières premières, du prix de l'énergie et du fait qu'on observe, on le voit, si j'ose dire à l'œil, un affaiblissement économique des puissances occidentales et que la guerre en Ukraine vient en quelque sorte, à minima, accélérer ou mettre en évidence. Et donc, on a d'un côté cette crise de confiance intérieure, de l'autre cet affaiblissement économique, et tout ça est combiné à une attitude où les Occidentaux haussent le ton. On l'a vu encore récemment, le président français est allé très loin en évoquant la possibilité de troupes sur le sol ukrainien, mais alors même que ça s'inscrit dans un contexte où l'engagement des puissances occidentales, européennes, est tout de même, réduit par rapport à ce que font les États-Unis. C'est-à-dire, ce manque d'engagement dont vous parlez, il est lié au fait que ces puissances européennes se sont désarmées, là où les États-Unis sont restés à un niveau d'engagement militaire qui permet aujourd'hui à l'Ukraine de tenir. Donc si cet engagement américain devait en quelque sorte disparaître, ou en tout cas se réduire, même si le volontarisme aujourd'hui du côté des Européens est revenu, même si l'Union européenne a été renforcée, même si l'OTAN a été renforcée, il y aurait vraiment une hypothèque sur ce conflit au regard d'un éventuel désengagement américain. Donc c'est la conjugaison de ces trois phénomènes qui doit nous inquiéter parce que finalement c'est la conjugaison de trois crises majeures.
Alors il nous reste 2 minutes avant la fin de cette première partie d'émission. On poursuivra vraiment bien sûr dans la deuxième. Je poursuis sur la question de démocratie, Jean-Vincent Lindre, sur la question peut-être de la datation avec la perte de terrain de la démocratie il y a une quinzaine ou vingtaine d'années. Est-ce qu'on peut dire, Gilles Andrani, que finalement la perte de prestige des démocraties, elle s'est faite au moment des interventions militaires en Afghanistan et en Irak?
Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a un phénomène plus profond. Dès le lendemain de la chute du mur et du triomphe apparent de la démocratie, de cette quatrième vague démocratique qui a succédé à la grande vague démocratique des années 70, Europe du Sud, Amérique latine, il y avait des résistances. On voyait bien, il y avait une série de pays qui n'étaient pas convaincus, des résistances idéologiques, etc. Ce à quoi on assiste, c'est à la convergence de ces résistances autour de thèmes communs. Une espèce d'idéologie potlatch à peu près illisible, mais qui en gros vante l'autoritarisme, la cohésion sociale, le sens de la famille contre un Occident décadent, permissif, jouisseur, etc. etc. Et ça, Poutine, les mollahs iraniens, certains pays africains, même l'Inde de Narendra Modi se retrouvent dans cette espèce de critique. Et donc on retrouve une forme de bipolarité idéologique avec toute cette espèce de camp composite, cette idéologie, il faut le bien dire, absolument... c'est pas le communisme soviétique, si vous voulez, c'est pas le même niveau intellectuel. Enfin bon, il faut faire avec. Idéologie fragmentaire, rustique, mais qui a ses attractions, justement, parce qu'elle est simple. Et le problème, c'est évidemment, comme... sans vouloir employer tout à fait les mots du Premier ministre désignant le Rassemblement national comme des troupes étrangères, mais ce mouvement a ses correspondants à l'intérieur de nos sociétés. C'est-à-dire qu'il y a des populismes qui sont en sympathie avec ces idées aux États-Unis, où ils menacent à travers Trump, je dirais, de prendre le pouvoir, et également en Europe. Donc on a une situation qui, alors là aussi, rappelle... ont beaucoup moins organisé, parce que personne n'est à la tête de ce mouvement, mais vous avez une bipolarité idéologique, des résonances intérieures à un combat idéologique global, et des démocraties qui, face à ça, sont sur la défensive.
Gilles Andrani, on vous retrouve avec Sonia Le Gourielec et Jean-Vincent Olyndre après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
pour cette édition en partenariat avec la revue Questions internationales et son numéro intitulé Fracturation, 20 ans de relations internationales. Nous retrouvons nos invités, Sonia Le Gourielec, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de Lille, Gilles Andréani, professeur affilié à Sciences Po, ancien directeur du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères, et Jean-Vincent Olindre, professeur de sciences politiques à l'Université Paris-Panthéon-Assas et directeur du Centre Thucydide. Nous avons terminé la première partie de l'émission sur les questions de démocratie, avec la perte de terrain de la démocratie depuis une vingtaine d'années. Gilles Andréani évoquait la bipolarité idéologique du monde. Sonia Le Gourielec, qu'est-ce que vous pouvez nous dire et rajouter sur ce que nous avons évoqué, et peut-être aussi comment les démocraties peuvent-elles se défendre si elles ne veulent pas disparaître ?
Oui, je voulais ajouter un élément aussi qu'on retrouve beaucoup dans le récit, c'est une forte demande de souveraineté. Il y a un néo-souverainisme qui réapparaît beaucoup dans les discours, qui explique aussi pourquoi on a demandé à la France de se retirer d'Afrique de l'Ouest, qui explique pourquoi il y a quelques jours, les Nigériens ont demandé aussi aux Américains de se retirer. Et ça, on le retrouve dans pas mal de discours des pays des Suds. Et ce qui est intéressant, c'est parfois contradictoire, parce que c'est quelque chose qui est mis en récit aussi par les Chinois et les Russes. Alors même que les Russes vont avoir une politique néocoloniale en Ukraine, ils vont appuyer avec leurs partenaires africains le discours du oui, de l'importance de la souveraineté, l'importance et contre les Européens. Donc on a cette idéologie, bipolarité idéologique, comme vous l'avez dit, qui se retrouve, et ça c'est un des facteurs, me semble-t-il, qu'on voit pas mal hein, dans les discours, et qui est instrumentalisé aussi par d'autres acteurs qui ont des visées impérialistes, comme la Chine, comme la Russie, et ça peut paraître parfois contradictoire avec leur propre politique, que ce soit dans leur environnement proche, pour les Chinois, la Russie dans son environnement proche également, mais ils vendent des choses différentes sur le continent africain par exemple. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des politiques un peu de multi-alignement. Il y a beaucoup de pays africains qui vont dire qu'ils sont frustrés de cette politique de conditionnalité de l'aide, etc. Il faut avoir une bonne gouvernance, la démocratie, etc. Et que les Chinois ne leur demandent pas la même chose, et qu'il faut multi-aligner, avoir un multi-alignement, plusieurs partenaires. En soi, c'est intéressant, ils jouent le jeu international, mais peut-être tombe-t-il actuellement dans un autre tête-à-tête. Ils ont voulu sortir du tête-à-tête avec la France ou les Occidentaux. Ils tombent dans un autre tête-à-tête avec les Chinois ou les Russes pour d'autres acteurs. Et pour rebondir sur votre question, si sur le court terme, ça permet sûrement à des régimes qui ont pris parfois le pouvoir par la force de se maintenir au pouvoir, si ça répond à la frustration démocratique d'une certaine jeunesse qui n'a pas vu les effets de la démocratie, a élu des présidents et finalement ils n'ont pas une vie meilleure, ils se disent on va se tourner vers les militaires qui font un coup d'État, etc. Si sur le court terme ça répond peut-être à ça, je ne suis pas sûre que sur le long terme, les Russes et les Chinois apportent ce que ces populations souhaitent.
Gilles Andréani.
Oui, juste sur le néo-impérialisme russe et chinois, le fait qu'ils sont exempts de ces revendications de souveraineté et des sentiments anticolonialistes, anti-impérialistes du Sud. On parle souvent du deux poids, deux mesures à propos de la guerre de Gaza. On est là dans le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que pour le Sud, il n'est d'impérialisme que le colonialisme. Et par conséquent, les impérialismes, disons, continentaux, chinois et russes, ils ne veulent pas le savoir et ils assument parfaitement cette contradiction. Donc il y a deux poids, deux mesures.
Deux poids, deux mesures. Et d'ailleurs, vous l'avez évoqué aussi dans la première partie de l'émission, Gilles Andréani, puisqu'on évoquait la guerre d'Ukraine et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec la Russie qui est devenue un rogue state. Finalement, les États-Unis aussi, d'une certaine manière, les invasions d'Irak et les invasions d'Afghanistan. Mais peut-être ce qualificatif ne leur a jamais été vraiment donné. Sur la démocratie, Jean-Vincent Olindre, autre chose ?
Disons que je voudrais revenir sur cette question de la bipolarité idéologique, et où évidemment la démocratie libérale constitue, disons, une des deux options évoquées. En fait, cette bipolarité idéologique, par rapport à l'époque de la guerre froide, elle est beaucoup moins territorialisée, c'est-à-dire que, au fond, ce débat entre ces régimes autoritaires très rustiques qu'évoquait Gilles et la démocratie libérale, cet héritage des Lumières, au fond, c'est un débat qui est très vif dans les pays qui ont produit ce modèle de la démocratie libérale. Et il est également présent dans les pays des Suds, compte tenu de ces évolutions des opinions publiques qu'évoquait Sonia Le Gourielec. eh bien, on voit aussi que cette jeunesse qui aspire à la liberté va exprimer des points de vue qui sont un peu en contrepoint des différents régimes autoritaires. Donc ça, c'est important d'intégrer cette dimension, au fond, d'internalisation de la bipolarité. De même qu'il est important de... L'un des récents numéros de questions internationales portait sur les inégalités. Ce qui est frappant, c'est de voir que, d'une certaine façon, ces inégalités qu'on observe à l'échelle mondiale, elles se réfractent aussi au plan intérieur. Et ce qui crée la demande autoritaire, c'est ces situations de déclassement perçues ou réelles de populations qui ont le sentiment d'être les perdants de la mondialisation et les perdants de cette nouvelle donne géoéconomique internationale. Donc je pense que c'est un élément essentiel de la situation. Quant au fait que vous avez des puissances en Asie ou en Afrique qui se tournent vers la Chine et éventuellement la Russie, d'une certaine manière, elles vont tester. Elles sont dans une forme d'aveuglement, comme Gilles l'a suggéré, c'est-à-dire ne pas voir qu'aujourd'hui, il y a une injonction impériale. Elle est du côté de la Russie et de la Chine, certainement pas du côté des puissances occidentales, mais d'une certaine façon, elles jugeront sur pièce. Mmh. C'est-à-dire ces États d'Afrique de l'Ouest qui aujourd'hui regardent vers la Chine en disant qu'elles ont plus à y gagner qu'en restant affiliées en quelque sorte aux puissances occidentales, elles verront, moi je fais le pari peut-être risqué, mais il me semble pas complètement déraisonnable, qu'elles verront qu'elles n'ont pas forcément à y gagner. Mmh. Et à ce moment-là, c'est pour ça que cette autocritique nécessaire du côté des puissances occidentales doit intervenir, parce qu'elle permettra peut-être un repositionnement de ces puissances occidentales dont on verra que ce qu'elles apportent, ce qu'elles permettent, n'est pas forcément moins aimable, c'est un euphémisme, que ce que proposent les puissances autoritaires rustiques, Chine, Russie, Iran, Turquie, etc.
C'est l'avenir qui le dira. En tout cas, l'une des nouveautés, il me semble que c'est vous qui le soulignez, Sonia Le Gourielec, c'est finalement cette diversification des partenaires commerciaux qui est devenue un peu la priorité stratégique de la plupart des gouvernements africains, mais pas seulement eux, hein, les puissances moyennes, les petites puissances. Vous évoquiez les appels à l'émergence d'un ordre international plus équitable et rééquilibré au profit des États du Sud. J'aimerais qu'on revienne sur la notion de Sud global. Quels sont, d'après vous, d'abord, est-ce que vous acceptez ce terme? Beaucoup le contestent. Quels sont les contours de ce terme? Et ce Sud, est-ce qu'il a un projet commun ou est-ce qu'il s'agit davantage d'opposition à des valeurs et à une idéologie?
Alors, merci beaucoup de permettre justement de clarifier sur ce terme, parce qu'en plus, c'est quelque chose qui fait beaucoup de débats parmi les chercheurs et même dans les institutions. Le terme Sud global doit être employé avec beaucoup de précautions. Le terme Sud global peut parfois rappeler une division qui a existé quand Ferguson avait sorti son livre sur The West versus the Rest. Et il y a une sorte de catégorisation, d'essentialisation. Donc, il faut être très prudent. Il faut contextualiser quand on utilise ce terme. En plus, vous avez des Suds dans les Nords, des Nords dans les Suds. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très clair. Néanmoins, il me semble qu'il ne faut pas rejeter le terme à partir du moment où des acteurs s'identifient à ce terme. À partir du moment où vous avez des dirigeants africains, des opinions publiques, des ministres indiens, des Chinois, etc., qui se définissent comme le Sud global, on doit comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça veut dire. On ne peut pas juste dire « moi, occidental, je refuse ce terme ». Oui, je trouve que le terme n'est pas adéquat. Néanmoins, il l'utilise. Qu'est-ce que ça veut dire? La Chine a, sur le site internet de l'ambassade de Chine à Paris en août dernier, fait tout un post pour expliquer qu'ils étaient les leaders du Sud global. Le Sud global, c'est ceci, c'est cela, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça, c'est ce qui me semble important et pourquoi certains s'y réfèrent et pensent être du Sud global. Pour l'instant, ce qui semble définir le Sud global, les contours sont très flous, c'est plutôt un rejet, une opposition et une demande d'alternative. Donc, c'est un rejet du modèle occidental, des institutions internationales qui ne seraient pas suffisamment, justement, égalitaires et représentatives du système international. Et donc, pour l'instant, ils semblent plutôt se rassembler par opposition et par rejet d'un modèle plus que par un véritable projet commun, puisque vous voyez très bien qu'au sein de ce Sud global, la Chine et l'Inde ne sont pas forcément très proches. L'Iran a rejoint les BRICS avec l'Arabie Saoudite, il n'y a que très récemment qu'ils ont fait la paix. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de divisions dans ce Sud global, mais ce qui semble être un dénominateur commun, c'est le rejet d'un modèle, c'est une demande de plus d'égalité, de justice, etc. Et en même temps, c'est instrumentalisé, comme on le disait juste avant, par des acteurs qui ont une vision impérialiste. Je ne sais pas si la Chine et la Russie veulent véritablement proposer un système international plus juste.
Alors, plus juste, peut-être pas. En tout cas, parallèle, certainement. C'est ce que fait Xi Jinping, qui tente d'organiser un ordre mondial parallèle. Est-ce qu'il va réussir? Et la notion de Chine, leader du Sud global, est-ce que là aussi, ça peut tenir longtemps, Gilles Andréoni?
Écoutez, moi, je dirais non, parce qu'on n'est plus dans un monde d'alignement. plus personne est solidement arrimé à un camp, même les États-Unis envisagent à travers Trump de déserter le camp occidental, qui est un comble, si vous voyez ce que je veux dire, face à la Russie. On est dans une ère où, à la faveur du rééquilibrage des forces, eh bien, les gens ont des stratégies parfaitement opportunistes et il y a un droit à l'incohérence en diplomatie aujourd'hui. Alors, regardez un peu, prenons un exemple. Regardez la Turquie. La Turquie, elle mange absolument à tous les râteliers. Elle se fait donner ou vendre plutôt des systèmes anti-aériens russes très perfectionnés au prix d'une crise avec les États-Unis qui refusent de leur vendre des F-35. Mmh. Elle se définit comme membre de l'OTAN, ce qui n'empêche pas de menacer militairement la Grèce de temps en temps à la faveur du différend, d'ailleurs très complexe, hein, je m'empresse de le dire, sur la mer Égée, du différend sur le partage du plateau continental dans la mer Égée. Elle se définit en même temps comme à la pointe de l'organisation de la conférence islamique, puissance musulmane. Elle se brouille du coup avec Israël en dénonçant dans des termes que Israël juge, à mon avis, à juste titre, inacceptable, l'intervention à Gaza. En même temps, elle est le principal fournisseur de drones à l'Ukraine. Donc, si vous voulez, elle se définit en même temps comme puissance européenne et comme puissance touranienne, pan-touranienne, avec des relations très spéciales avec les anciennes républiques turcophones ou musulmanes, pour regarder plus large, de l'ex-empire soviétique. Et elle aide l'Azerbaïdjan à reconquérir le Nagorno-Karabakh. Donc, si vous voulez, on est dans une espèce d'éclectisme, non seulement idéologique, mais stratégique. Et avec ça, elle va dire qu'elle est anti-impérialiste, naturellement. Bon. Et tout le monde est un peu, je trouve, c'est ça qui rend si difficile l'analyse des relations internationales aujourd'hui. Les gens ne font qu'à leur tête, si je puis dire. On pouvait dire que du temps de la guerre froide, chacun tenait un peu son camp, en tout cas limitait les marges de manœuvre au sein de son camp. Maintenant, les gens sont souverains au sens où ils font ce qui les arrange. Ils font ce que les intérêts leur dictent. Et du coup, reconstruire dans ces conditions un ordre international, je dirais, respectueux des traditions, de la loi, de l'ordre, va s'avérer quand même très compliqué.
Alors, j'ai trois chemins sur lesquels j'aimerais que vous me disiez votre opinion. L'Europe, finalement, est-ce que, on l'a évoqué dans plusieurs émissions, elle vous semble la grande perdante de ces fracturations d'aujourd'hui? Quelques mots aussi sur les dépenses militaires. La dépense militaire globale a doublé ces dernières années. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et enfin, est-ce que la lutte contre le changement climatique vous semble être un domaine où il peut y avoir convergence d'intérêts entre nous tous? Jean-Vincent Aulin.
S'agissant de l'Europe, au fond, c'est un peu une épreuve de vérité que nous sommes en train de traverser, dans le sens où si la situation que j'ai évoquée tout à l'heure d'une victoire de Trump devait se produire, à ce moment-là, ça impliquerait une situation, pour parler comme Machiavel, où la nécessité l'emporterait sur toutes les autres considérations, parce qu'en effet, il faudrait à ce moment-là faire face à une situation sans doute inédite, c'est-à-dire une guerre, disons, globale ou à portée globale aux portes de l'Europe avec un retrait américain. Donc j'aurais plutôt tendance à penser que la situation peut au contraire conduire les Européens, sous l'effet de la nécessité, à avoir à la fois leurs intérêts communs et leurs valeurs et leurs principes communs. Donc de ce point de vue, et il me semble que c'est d'ailleurs assez conforme à ce qui s'est passé au XXe siècle lorsque Raymond Aron disait que les démocraties pourront l'emporter à condition qu'elles le veuillent. Ça me paraît un élément essentiel.
De volonté politique.
Voilà. L'autre point sur les dépenses militaires, je voudrais le lier à la remarque très juste qu'a fait Gilles Andréani tout à l'heure sur le fait que les acteurs n'en font qu'à leur tête. La question est de savoir si cette situation de multiples allégeances et de désordre international combiné à une complexité structurelle va conduire à une dégradation de la situation au point d'envisager des situations de guerre généralisées, ou si au contraire, cette situation de multiples allégeances peut conduire les acteurs à justement éviter ce scénario. Les deux scénarios me semblent plausibles. La question est celle ensuite de la responsabilité politique de celles et ceux qui seront au pouvoir. Quant au changement climatique, le traité sur la haute mer, par exemple, montre qu'il y a la prise de conscience de la nécessité de protéger ces espaces communs. Et donc là aussi, il n'y a pas lieu d'être totalement pessimiste, même si l'avenir le dira. Mais il faut dire en même temps que ce durcissement des relations internationales et cette multiplication des guerres conduit à des situations où finalement les considérations climatique passe au second plan, voire au troisième plan. L'usage par les Russes ou par d'autres acteurs des bombes très peu précises, tout ça est conduit à une dégradation des systèmes naturels. Donc on a les deux tendances là aussi qui s'affrontent.
Sonia Le Gourielec.
Je vais vous répondre en prenant un peu la tangente en même temps, en mettant la focale sur un point qui me semble important. Il y a quelques semaines, le New York Times faisait un article sur le continent africain en parlant de séisme de la jeunesse. D'ici 25 ans, 2,5 milliards d'habitants sur le continent africain, un tiers de tous les 15-24 ans du monde seront sur le continent africain, un quart de l'humanité sera sur le continent africain. Comment le continent va se transformer, c'est hyper important. Comment ses relations avec le reste du monde vont évoluer, me semble très important. Et donc, pour rejoindre ce que vous étiez en train de dire, comment ces jeunes vont trouver de l'emploi, comment ils vont faire face, le baby boom va peut-être étouffer la croissance économique, comment ils vont faire face à la transition énergétique, au changement climatique, à toutes ces questions-là, il faudra aussi répondre, et il faudra répondre avec eux. Et le journaliste Antoine Glaser disait il n'y a pas très longtemps que le monde entier est dans leur salle d'attente. Alors pour le continent africain, pour les pays du Sud. Et moi, je rajouterais peut-être que nous n'avons pas fait encore le shift de notre cerveau, parce que nous pensons encore qu'ils sont tous dans notre salle d'attente. Ce n'est pas le cas, me semble-t-il.
Salle d'attente de l'Afrique, on l'a bien compris, oui. Hein, qui est devenue par ailleurs le terrain d'une guerre d'influence entre les puissances. Gilles Andréani.
Sur l'Europe, l'Europe a beaucoup à perdre dans toutes ces évolutions, parce qu'elle est un peu victime du paradoxe de Tocqueville, c'est-à-dire que au fur et à mesure que les privilèges se réduisent, ils sont de moins en moins acceptés. Or, l'Europe, bon, les États-Unis s'en tireront toujours, si vous voulez, garderont toujours une capacité d'influence, ils ont la densité, malgré leur déchirement interne, qu'il ne faut pas sous-estimer, d'un État-nation. L'Europe, c'est plus compliqué, elle est menacée dans ses privilèges historiques, dans sa position, je dirais, d'inventeur d'idées qui se répandent ensuite dans le monde, et elle est menacée directement par la Russie à travers l'Ukraine, il ne faut pas se le dissimuler. Et donc, je suis d'accord avec Jean-Vincent, on a un moment de vérité devant nous, et il y a plus d'enjeux qu'on ne le croit dans la guerre d'Ukraine pour nous. C'est pour ça que je pense qu'en agitant une perspective qui était à la fois, à mon avis, totalement prématurée, inadéquate, et qui a fait plutôt le jeu de la Russie qu'autre chose, l'envoi de troupes au sol, le président de la République a néanmoins mis le doigt sur quelque chose qui est réel, c'est-à-dire qu'il faut se réveiller et comprendre que le sort de l'Europe et sur le sort de l'Europe, puissance d'influence à l'échelle européenne, peut-être même au-delà, se joue dans l'issue de la guerre d'Ukraine et notre aptitude à la soutenir. Ensuite, le changement climatique, la reconstruction d'un ordre international qui permette d'en venir à bout. Bon, c'est un domaine où il n'existe aucune convergence spontanée des intérêts. C'est-à-dire que vous avez une convergence des intérêts à long terme et globaux qui est la survie de l'humanité, si vous voulez. Mais malheureusement, on n'est pas citoyen du monde, on est citoyen d'un pays déterminé, d'une région particulière avec leurs intérêts. Et ces intérêts divergent très profondément entre la Chine, premier émetteur de CO2, beaucoup plus dense en émissions de CO2 que les économies américaines ou européennes, et qui aurait beaucoup à perdre à des systèmes de régulation globaux du CO2. D'ailleurs, elle dit qu'il y a un problème historique, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait faux, etc., etc. Et tous les mécanismes de régulation aux frontières ou de taxation du carbone vont inévitablement déclencher des différences d'intérêts ou révéler des différences d'intérêts absolument majeures entre pays. J'ai peur qu'il ne faille un système international beaucoup plus discipliné, rigoureux, attentif à l'intérêt collectif pour venir à bout de ce problème. Et disons, pour employer un euphémisme, nous n'en sommes pas là.
Et vous pensez, pour juste aller jusqu'au bout de votre raisonnement ou pas, peut-être des conflits commerciaux ouverts sur la question du changement climatique, Gilles Andréani, avec une réponse très brève.
Les conflits commerciaux, ils sont là. Vous avez le populisme qui alimente une méfiance sélective jusqu'à présent, mais néanmoins profonde vis-à-vis de la mondialisation dans beaucoup de pays développés. Et ce que je pense, c'est que le changement climatique, c'est du combustible pour ce feu-là, si je peux dire.
Merci Gilles Andréani. Je rappelle que vous êtes professeur affilié à Sciences Po, ancien directeur du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. Merci aussi à Sonia Le Gourielec, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université catholique de Lille, et Jean-Vincent Olindre, professeur de sciences politiques à l'Université Paris-Panthéon-Assas, directeur du Centre Thucydide. Et nous vous invitions à débattre autour donc du dernier numéro de Questions internationales sur les fracturations. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.